Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On s'intéresse aujourd'hui au bien-être de votre véhicule. Claude Paris a fondé l'entreprise Cocoon Auto. Il propose de nettoyer votre véhicule autrement, de façon éco-responsable. On va voir comment. Il a aussi choisi de donner une seconde chance à ses salariés en recrutant des personnes parfois éloignées du monde du travail. Bonjour Claude Paris.
Bonjour à vous.
Merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Alors, le slogan de Cocoon Auto, c'est l'esthétique automobile par nature. J'ai envie de dire, quand on sait que les produits qui servent à nettoyer ou rénover une voiture ne sont pas particulièrement écologiques, comment faites-vous ?
Alors, il existe des produits écologiques, heureusement, pour nettoyer les voitures, parce que tous les produits qu'on utilise sont des produits certifiés EcoCert.
Ouais.
Donc, ils sont effectivement très écologiques. Et pour cette entreprise Cocoon Auto, où nous avons également un tunnel de lavage. Donc, en fait, c'est un automate de lavage qui ressemble à un portique rouleau, mais sur 20 mètres de long. Mm-hmm. Là, on utilise des produits qui sont biosourcés. D'accord ? Donc, ils n'ont pas la certification EcoCert, mais ils sont issus de matériaux naturels. Voilà.
D'accord.
Et donc, ça permet de, quand même de faire du nettoyage avec des produits éco-responsables, on va dire.
Et voilà. Qui nettoient bien ?
Très, très bien. Parce que ma première entreprise qui s'appelait Cineo, on est uniquement chez les concessionnaires automobiles.
Ouais.
On a 65 salariés, on nettoie 6 à 8 000 voitures par mois. Et les concessionnaires sont réputés pour être extrêmement exigeants sur la qualité du nettoyage. Au début, ils avaient tendance à nous dire, vos produits écologiques, moi je veux des voitures propres, hein, vous prenez les miens. On a tenu bon et aujourd'hui, on a des produits meilleurs que les produits chimiques qu'ils peuvent avoir.
D'accord. Voilà. Et qu'ils utilisent toujours les produits chimiques, les concessionnaires, vous voulez dire ?
Eux en interne, oui. C'est pas leur culture, on va dire, chez les concessionnaires. L'automobile, c'est pas par nature un métier écologique. Et par contre, il y a des produits qui existent, qui sont très matures, qui existent depuis plus de 15 ans maintenant. Hein.
On va y revenir dans un petit instant, justement, sur tout ce côté nature et écolo et comment vous faites, puisque vous avez mis en place un bassin de phyto-épuration,
hein,
si j'ai bien suivi. Mais ça, vous allez nous détailler tout ça. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est votre côté chef d'entreprise, parce que vous venez de nous dire... J'ai une autre entreprise. Alors, ça veut dire que vous avez deux entreprises, trois entreprises ?
Aujourd'hui, j'ai trois entreprises. Ouais, voilà, avec Cocoon Auto, la troisième et la dernière. Je vous ai 57 ans.
Le dernier bébé, ouais.
Et donc, c'est vrai que j'ai mis un peu dans Cocoon Auto tous les rêves que j'avais envie pour mettre du sens dans mon travail. Voilà, l'idée maîtresse, elle est un petit peu là. À 45 ans, je me suis retrouvé un petit peu démotivé par mon travail. Non pas qu'il n'était pas intéressant, mais je n'y trouvais plus le sel qui me permettait d'avancer. Mmh. Et donc, j'ai fait. Ma technique pour moi était de faire du développement personnel pour trouver ce qui vraiment m'animait, ce qui me faisait bouger, me donnait envie de me lever le matin et me faisait vivre d'une façon positive. Et donc très vite, les mots social et écologie sont venus. Après, je me suis dit, bon, bah, c'est deux jolis mots, mais pour en faire son métier, il y a une différence. Donc j'ai commencé à me tester sur différents sujets. Donc pour le social, j'étais 4 ans au Resto du Cœur, je suis parti en Égypte, enfin voilà. Et c'est des choses où j'ai vu qu'effectivement, c'est quelque chose qui me faisait vraiment avancer. Donc j'ai commencé à chercher, effectivement, quelque chose. Je me suis dit, après, je suis chef d'entreprise, donc plutôt que de faire ça dans un pays étranger ou sur un secteur, bah, fais-le avec ce que tu es. J'ai un peu de compétences en gestion, un peu de compétences en commerce, m'a créé une entreprise dans laquelle on va faire un modèle économique normal, qui s'adresse au marché, sur des besoins du marché. C'est pour ça que j'ai choisi aussi l'automobile. C'est étonnant de faire de l'écologie de l'automobile. Mais en mettant cette dose d'écologie et de respect de l'humain qui est cher pour moi. Voilà.
D'accord, vous y retrouvez en fait, c'est vos valeurs.
Voilà, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me motive. Ouais. Nettoyer voiture, c'est pas la motivation première, je peux vous l'assurer.
C'était pas un rêve de gosse.
Par contre, effectivement, permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi de pouvoir, après deux années passées ensemble, travailler plusieurs projets professionnels, les voir réintégrer de façon durable le marché du travail, bon, ça c'est chouette. C'est pas de l'assistanat, mais ils travaillent la journée, nettoyer des voitures, et après ils travaillent avec nous des projets professionnels pour préparer leur avenir. Donc c'est un vrai pari qu'on fait ensemble. Et. Et je trouve ça sympa de mettre un cadre qui permette de faire ça. Le nettoyage automobile permet de le faire.
Oui, tout à fait. Alors ça veut dire, on va expliquer concrètement. Oui. C'est-à-dire que vous ne recrutez que des personnes qui sont en insertion. Quel type, en fait, de salariés? Et avec qui vous travaillez? Est-ce que vous travaillez avec les services sociaux, par exemple, voilà, de la ville?
Alors, juste une précision. Donc, j'ai une entreprise d'insertion, ouais, par l'activité économique. Mm-hmm. Et où là, effectivement, on prend des profils qui nous sont envoyés principalement par Pôle emploi et leurs partenaires.
Ouais.
Ce sont des gens très éloignés de l'emploi pour différentes raisons que la vie peut vous mettre en termes de difficultés.
Bien sûr, bien sûr.
Et ensuite, donc là, c'est tout type de profil. Il n'y a pas de frein particulier. Et là, Cocoon Auto que j'ai créé, on fait la même chose en termes de démarche d'insertion, mais avec des handicapés. Je voulais aller un petit peu plus loin encore dans, dans l'insertion de personnes encore plus éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, bon, on démarre, on a 6 personnes, on a 2 sourds, une personne déficiente.
Mm-hmm.
Un sourd, ne serait-ce qu'un entretien d'embauche, c'est compliqué. Donc voilà, donc l'idée est d'avoir exactement la même démarche, mais avec le monde de handicapé, donc on sera entreprise adaptée.
D'accord. Ouais. Et là, vous vous êtes fait accompagner aussi par des spécialistes. Des spécialistes, par exemple, de personnes en situation de handicap qui peuvent vous aider pour les traductions.
Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une découverte.
Oui.
Moi, je venais de l'informatique, je viens à l'insertion, je ne connaissais rien. Donc, effectivement, il faut rencontrer les gens qui savent et puis apprendre la façon de gérer, la façon de recruter les personnes, quel type de profil, comment on les accompagne. Après, j'ai une chargée d'insertion professionnelle qu'elle a à temps plein pour accompagner ces personnes. Puis tout le management est sensibilisé à ces valeurs. Sur la partie handicap, j'ai dû aussi apprendre à connaître un petit peu comment rencontrer ces gens, comment leur proposer un poste qui peut correspondre à leur handicap.
C'est ça, beaucoup d'écoute.
Voilà. Ouais. Ben, beaucoup de compréhension, en fait.
Ouais.
Voilà. Et c'est étonnant parce qu'on apprend beaucoup, en fait. Je sais que les sourds m'ont étonné. J'ai embauché dans ma précédente entreprise des sourds juste pour nous tester, quoi. Et on m'a dit, bon, le principal problème, c'est la communication. Bon, je pouvais le deviner tout seul.
C'est ça, voilà, c'est ça, oui, j'allais vous le dire un peu logique, mais
voilà.
Bon.
Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que le problème, l'handicap, il est chez nous à ce moment-là. Parce que moi, je vais voir un sourd, je ne sais pas comment, je me sens un peu bête vis-à-vis de lui pour lui parler, alors que lui, il a toujours été sourd. Et donc, il a appris à communiquer avec les personnes entendantes. Et donc, il comprend très vite ce que vous voulez dire. Il a une capacité à dialoguer qui est beaucoup plus intéressante, enfin, beaucoup plus naturelle que la vôtre. Et donc, c'est lui qui vous donne une leçon, quoi. Et là, c'est sympa. Et moi, je l'avais confié à un de mes chefs d'équipe qui voulait être de la partie Cocoon Auto. Il m'a dit, au bout de 48 heures, c'est génial la communication avec les sourds. J'ai trouvé ça extraordinaire.
C'est fabuleux, ouais. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter de faire tomber des barrières et se remettre en question.
Voilà. C'est comme la peur de l'inconnu. Là, quand vous avez quelque chose d'inconnu, vous n'êtes pas à l'aise. Au pire, vous avez peur. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien
et
sûr.
Donc, ce n'est pas forcément naturel. Puis, dès que vous passez la barrière, pouf, il y a un truc qui se passe qui peut être chouette. Des fois non, mais des fois oui, souvent oui.
Oui, bien sûr, ça se voit dans vos yeux quand vous en parlez. Est-ce que, alors, on est vraiment au cœur de l'économie sociale et solidaire?
Ah oui, absolument. Oui. Ouais. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, qui me porte beaucoup. Je fais partie du réseau de l'économie sociale et solidaire avec une particularité, je dirais, c'est que je le fais vraiment dans le monde de l'entreprise. Souvent dans le monde de l'économie sociale et solidaire, c'est des démarches sur des métiers un peu parallèles ou un peu différents ou un peu à la campagne. Et moi, je me suis dit, ça serait intéressant, si on veut que ce soit une vraie alternative au modèle productiviste actuel, ça serait intéressant de le faire dans des métiers qu'on a besoin tous les jours, sur des choses qu'on utilise tous les jours. La voiture. Même les plus grands écologistes, ils ont une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, par rapport à ça, je me disais, je vais faire un modèle économique qui sera autonome financièrement, qui va prouver son modèle économique, mais en ne lâchant rien au niveau écologie, en ne lâchant rien au niveau social. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des choses comme la phytoépuration.
Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça, la phytoépuration?
La phytoépuration, alors j'avais une problématique, c'est que je voulais. Dans l'ESS, on n'est pas forcément toujours pris au sérieux. Donc, je voulais quelque chose absolument nickel au niveau qualitatif. Et donc, j'ai acheté une machine allemande qui est un tunnel de lavage sur 20 mètres de long. Vous arrivez, votre voiture, on lui passe un coup de karcher pour faire tomber la première saleté et nettoyer les endroits un peu inaccessibles. Et après, on la met dans un tunnel de lavage. Elle va avancer toute seule pour rester dans votre véhicule. Et là, il y a des jets et des brosses qui vont nettoyer votre voiture d'une façon qui n'ont rien à voir, qui vont complètement obsolétiser les rouleaux, en fait.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ouais.
Cela combinant que ça, c'est que ça consomme 300 litres d'eau par voiture et qu'on peut traiter 300 véhicules par jour. Donc ça fait vite des mètres cubes.
C'est beaucoup quand même. Ouais.
Et quand vous constatez que la législation pour les professionnels du nettoyage automobile fait que vous devez avoir juste un bac débourbeur où les matières lourdes tombent au fond, les pétroles sont censés plus ou moins flotter. s'ils ne sont pas entraînés par le courant. Et tout le reste, ça part directement à la Garonne. Interdiction de se connecter aux eaux usées. Donc tous les produits chimiques partent directement à la Garonne. Quand vous faites de l'écologie, vous ne pouvez pas faire ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire des choses qui sont économiquement viables pour les clients, deux, qui sont extrêmement performantes, mais en assumant les conséquences derrière. Donc après, je connaissais la phytoépuration, parce que je m'intéresse un peu à ces sujets-là. C'est surtout utilisé par des campings qui n'ont pas accès au réseau d'eau usée et qui donc mettent un bassin de phytoépuration et puis derrière rejettent l'eau au pluvial. Nous, on voulait que ce soit en circuit fermé.
D'accord.
Donc on a mis en place un bassin, 200 mètres carrés, 2 mètres de profond, des drains, des substrats, des roseaux, et vous avez un système de pompe,
filtrer, en fait.
Voilà, d'eau qui va percoler à travers ce substrat pour se décomposer, enfin pour décomposer les matières sales ou produits chimiques et pour avoir une qualité d'eau aussi propre que possible. Alors on était plus loin compensé, la qualité de l'eau à la sortie est potable.
Ah oui, carrément. Ah oui, c'est étonnant. C'est étonnant.
On met de l'eau très propre pour pas être critiqué sur la de l'eau recyclée. Et là, bon, elle est potable, donc effectivement, on est crédible. Ouais. Voilà. Et on stocke ça dans une cuve de 15 000 litres et on utilise cette eau en circuit fermé. Et j'alimente cette eau par récupération d'eau de pluie du toit et du parking.
D'accord, d'accord. Vous allez plus loin encore, vous faites d'autres choses, vous avez innové, vous êtes dans l'innovation quelque part.
Oui, après, quand je vous parlais d'avoir mis tous mes rêves, je voulais que ce soit un lieu, on passe beaucoup de temps, quand vous venez nettoyer une voiture, c'est pas forcément, vous venez pas au cinéma. C'est pas la fête, d'accord? Et vous y passez du temps, parce qu'on va durer, votre nettoyage, il va durer demi-heure à 3 heures, suivant l'état de la voiture, et ce que vous voulez comme résultat. Et donc, vous faites quoi? Bah, vous attendez, vous faites pas grand chose, d'accord? Donc, nous, on a prévu 2 salles d'attente, une en bas avec un canapé, vous mettez, enfin, un fauteuil, vous mettez les pieds en l'air et tout, le café, etc. Une salle en haut, il y a un canapé, etc. C'est un tiers-lieu, en fait, où on reçoit des gens. Et puis, j'ai fait un jardin en permaculture. Pour montrer qu'il y a d'autres modèles qui existent que la rue traditionnelle, c'est pas toujours connu, la permaculture.
C'est vrai,
c'est sur le lieu.
Mais c'est vrai,
voir des tomates, machin, sur un lieu de nettoyage de voiture, c'est, voilà.
C'est sûr.
L'idée, c'est un
ça
peu confronter les gens. Voilà, les gens disent, mais il fait quoi, lui?
Voilà. Il est jardinier ou?
Voilà, j'ai mis un verger de maraude également, que les gens puissent se servir. C'est la notion aussi du don, du partage, etc., qui peut être intéressante. Et puis, j'ai envie de faire des ateliers où on va mixer nos salariés, nos clients, par exemple, la taille des vergers, la récolte des tomates en ce moment. Enfin, voilà. Voilà, donc l'idée, c'est de faire des choses ensemble. Ça pourrait être sympathique. Et le tiers-lieu que j'ai mis en place, c'est j'invite tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire à disposer du bâtiment que j'ai construit gratuitement. Il y a 2 salles, une de 40aine de personnes, une salle une 12aine de personnes. Il y a un espace restauration si besoin, il y a des tables dehors. Et l'idée, c'est de faire des animations autour de ce qu'ils font, ce qu'ils proposent en termes de solutions alternatives au modèle dominant actuel.
Ah, ça c'est
actuel.
Intéressant, voilà. Ça.
Okay. Et c'est pareil, c'est ce lieu de production.
Ah, ça c'est très intéressant. Donc, on va en parler en deuxième partie de cette émission. C'est une sorte d'espace de coworking, en fait.
Oui, alors c'est pas orienté travail, c'est plutôt orienté animation, présentation de solutions alternatives qui pourraient exister. Voilà, un lieu de rencontre. Voilà.
Passionnant. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Claude Paris est avec nous de Cocoon Auto. On pourrait dire que vous êtes un serial entrepreneur.
Merci.
Avec le côté positif. Bonjour Denis Abril.
Bonjour Doris.
Denis, vous êtes un de nos référents éthiques pour Radio Présence et Le Goût d'Entreprendre. Première question, Denis, à Cocoon Auto.
D'abord, je donne un peu d'explication, une chose que je n'ai pas très bien comprise. Donc, vous avez une entreprise d'insertion et Cocoon, mais qu'utilise Cocoon utilise comme salarié, comme intervenant, des handicapés.
Oui.
Donc, c'est deux choses différentes, là.
Oui.
Ah, c'est-à-dire que ce n'est pas l'entreprise d'insertion qui éventuellement travaille pour Cocoon. D'accord.
Ça peut l'être ponctuellement, mais ce n'est pas l'objet. C'est deux entités juridiques
séparées. D'accord. Donc, on n'est pas du tout...
Voilà.
D'accord. Bon. Alors, autre chose que je n'ai pas compris aussi, c'est que, bon, vous faites de la phytoépuration, donc de l'eau qui est utilisée, mais vous utilisez des produits chimiques, et des produits chimiques qui sont utilisés pour nettoyer.
Non, ce sont des produits qui sont biosourcés, c'est-à-dire avec des éléments d'origine végétale.
Ah,
comme les extraits de betterave, comme les produits que j'utilise pour l'intérieur des véhicules qui sont certifiés EcoCert, ce sont uniquement des produits biosourcés. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas des choses comme ça dedans.
D'accord, alors que l'épuration uniquement pour récupérer ce qui est sur les voitures et qui est assez sale.
Voilà, donc toutes les eaux de lavage qui tombent de la voiture.
Mais si elles sont bio, les eaux de lavage, il n'y a pas à épurer. Par contre, il y a épuré les saletés qu'elles ont ramassées.
Il y a aussi les saletés, effectivement. Voilà, effectivement, parce qu'on nettoie les voitures. Donc tout ce qui tombe de la voiture, plus les produits de lavage, je sais pas. Moi, j'ai des produits qui nettoient les jantes. Donc même s'ils sont bio, ils sont très agressifs. pH 1. Donc ça, vous jetez ça directement à la garonne, c'est pas très bon non plus. D'accord. Donc il faut quand même dégrader. C'est pas parce que c'est végétal que c'est pas puissant, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est important de tout bien dégrader de façon effectivement à ne rejeter, voire rien rejeter, parce qu'on en sait rien.
On peut avoir de l'arsenic bio, c'est pas très bon non plus. Vous
savez. Je connais pas ça.
Mieux éviter. Hein.
Pour le lavage auto, on n'utilise pas ça.
Oui, alors, d'après ce que j'ai compris, vous êtes installé à Saint-Alban.
Saint-Alban,
oui, c'est donc ça. C'est là où il y a le centre de lavage.
C'est le centre de lavage.
D'accord. Ouais. Donc, si on veut laver sa voiture, il faut aller là-bas.
Oui, d'accord, tous les particuliers viennent plutôt là-bas. Pour les entreprises, on a une offre également à domicile.
D'accord. Vous avez des moyens portables que vous utilisez pour aller à domicile.
Exactement. On a un véhicule atelier où on peut aller sur site. Et là, ce qu'on utilise, c'est le nettoyage sans eau, hein, qu'on sait très bien faire, qu'on connaissait notre entreprise précédente. Donc là, on va sur le site et puis il nous faut au moins une prise de courant. Bon, chez Airbus, on avait aussi un groupe, hein, mais ça nous permettait de nettoyer intérieur et extérieurement la voiture en une heure avec des produits là.
Donc là, sans récupération de
non, parce que là, on n'utilise pas d'eau. Hein, c'est du nettoyage sans eau. La seule eau qui est utilisée, c'est pour nettoyer les lingettes, donc on va dire qu'on utilisait 3 litres d'eau par voiture à peu près.
D'accord.
Entre les produits qui sont liquides et les lingettes à laver. Ouais.
Tout à l'heure, Claude, vous parliez de cet espace tiers-lieu qui permet donc aux gens de se rencontrer, de partager, voire même de faire du jardin aussi.
Oui.
Pourquoi vous avez voulu justement créer du lien? C'est une façon, hein, c'est ça, de mettre en relation.
Oui, alors l'idée c'est que le temps passé chez nous soit un temps agréable. Qu'on soit un peu confronté avec des nouvelles idées nouvelles, pour susciter l'intérêt, la curiosité, et puis deux, que ce soit confortable, agréable, etc. Le bâtiment est biosourcé, les couleurs sont belles, c'est du bleu, du vert, enfin voilà. Il y a un jardin fleuri à l'entrée, une prairie fleurie. Bon, voilà, l'idée c'est de passer un moment agréable et de mettre les gens... Voilà, on peut avoir un temps agréable, même quand on nettoie sa voiture, que ce soit agréable pour les salariés et pour les clients.
Ouais, d'accord. Denis, votre question.
Alors, vous nous avez très bien expliqué le pourquoi de votre aventure, etc. Donc là, on sent bien vos valeurs et ce que vous voulez faire. Mais ces valeurs, est-ce qu'elles se retrouvent vers vos clients? Parce qu'il faut quand même y aller à Saint-Allemand, il faut vraiment choisir son nettoyeur de voiture, si je puis dire. Ouais. C'est qui et comment vous voulez rencontrer ces clients? Et puis après, même question pour vos salariés.
Très bien. Alors mes clients, j'ai démarré de zéro, donc j'ai fait cette construction pendant un an, et puis après vous allumez la lumière, puis vous ouvrez la porte, puis vous dites, ils sont où les clients? D'accord. Aujourd'hui, après un an, je dirais que j'ai une partie client. C'est marrant, quand les clients viennent, souvent, ce que je vous disais tout à l'heure, ils ne sont pas forcément souriants, etc. Ils viennent pour nettoyer une voiture. Bon, bref.
Puis ça ne les fait pas rêver au départ.
Voilà.
C'est ça.
Et on essaie, bon, après, ils commencent à regarder, ils disent, tiens, c'est sympa. Bon. Puis on essaie de passer un peu de temps avec eux pour leur expliquer on est, ce qu'on fait, etc. Donc la partie handicap. Enfin, voilà, on raconte l'histoire comme je le fais avec vous, quoi. Et là, souvent, les visages s'éclairent, quoi. Et donc, on a un fort taux d'attachement à l'entreprise. Bon, lié à la qualité de nettoyer les voitures, ça, c'est normal de faire bien, mais on le fait bien. Mm-hmm. Mais aussi par tout ce qu'on rajoute en plus, quoi.
Voilà.
Ils disent, ouais, c'est un chouette projet, enfin, il y a quelque chose.
Histoire, voilà.
Puis une fois que vous commencez à vous balader un peu, quand on a le temps, on fait visiter, voilà, les gens, bah, ils sont un peu charmés par tout ça, parce que ça change, quoi. Ça, vous n'avez pas l'habitude de voir des poiriers dans une station de lavage auto. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses, le bassin de phytoépuration, il n'y a plus de gens qui connaissent. Donc, la cohérence qu'on a mis dans ce projet, où je voulais un peu aller au bout de mes idées, plaît. Voilà. Et je pense qu'il y a cette sensibilité aujourd'hui qui est présente chez la majorité des Français. Si on pouvait faire les choses un peu plus proprement et un peu plus respectueusement de l'humain, faisons-le.
C'est
et
ça, oui.
Quelque part, ils participent peut-être un peu en venant chez nous plutôt que chez
les concurrents. Il y a une vraie prise de conscience, ouais. Vous avez senti ça, on le sent.
On le sent fort. Ouais.
Tous les entrepreneurs que nous recevons nous le disent. On recevait il y a quelques semaines également Terre de Pastel, qui a la même démarche humaine et entrepreneuriale.
Il y a toujours, enfin moi je pense que les gens sont majoritairement bons, donc quand on peut leur tendre la main sur quelque chose où ils peuvent agir quelque peu à leur manière, à leur portée, facile. Bon, ben voilà, c'est un plus.
Voilà. Oui, ça c'est un geste personnel qui existe et ça va au-delà des discours que l'on entend sur l'écologie, tout ça, c'est vraiment une action qu'on propose finalement aux personnes, aux clients, mais et aux salariés. Donc vous avez les salariés qui travaillent, donc les opérateurs, vous avez des managers aussi qui animent tout ça, ils partagent vos valeurs, comment
ça se passe? Oui, les managers ceux qui sont avec moi voilà, on a eu aussi les yeux qui brillent pour le projet, pour les valeurs qui sont portées. C'est compliqué de venir en étant n'ayant pas ces valeurs-là. Après, au niveau des salariés, non. Au niveau des salariés, on nous envoie des profils, on tripote par rapport à leurs valeurs. Hein. Non, pas du tout. Non, là, c'est les critères de sélection, c'est par rapport à... Nous, on a un métier où on se tord beaucoup dans les voitures, donc quelqu'un qui a mal au dos, on ne va pas pouvoir le prendre. L'idée, c'est pas de casser les gens qu'on va embaucher. Quoi. Mais voilà, les seuls critères, c'est ça. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Voilà. Et après, on essaie de mettre en place du management participatif. Ça, c'est du travail.
Comment vous faites
Je me suis fait accompagner d'une société de formation pour mettre ça en place. Ça a bien fonctionné pendant un an. Ça a été même extraordinaire, je dirais. Et puis après, il y a eu un problème dans la société qui nous a accompagnés. Il y a eu un problème de financement, j'ai connu une baisse de mes résultats et il faut que je l'autofinance. Hein. Ouais. Donc on s'est arrêté pendant un an et là on a pris le contre-coup.
D'accord. Que mais ça avait marché en fait.
Ah oui, c'est... on faisait des réunions, c'était assez extraordinaire. Ouais. Alors j'avais à l'époque ciblé que l'encadrement, hein, comme vous disiez, parce que c'est important d'avoir des locomotives hein, qui sont là. Et cette année on recommence mais avec l'ensemble des salariés. Hein. Donc là c'est un autre challenge. Parce que là, c'est 70 salariés qu'il va falloir, qui viennent de tout horizon, qui vont découvrir un peu cette démarche qu'ils ne connaissent pas forcément et à qui on va leur demander de décider à ma place. Ouais, c'est marrant.
Ça repose.
Mais en fait, oui, vous allez pouvoir faire autre chose maintenant.
Oui, on va donc. J'ai déjà finalisé ce que j'ai commencé.
On peut imaginer, Claude, des franchises ?
Oui, alors c'est un modèle que j'ai conçu pour être reproductible. Effectivement, il est déposé à l'INPI, il est reproductible. Et dans le cadre de l'ESS, si d'autres personnes ont envie de faire pareil, allons-y, c'est gratuit. Enfin, qu'est-ce que je veux dire c'est,
Vous êtes prêt à donner des conseils?
Oui, une fois que j'aurai fini de ces boulots aux trois entreprises, c'est beaucoup de boulot.
Oui, une fois que vous aurez fini, notamment au point de vue rentabilité, là, ça marche parce que vous avez quand même des poids supérieurs par rapport à des stations de lavage classiques. Comment vous arrivez à joindre le debout, comme on dit?
Alors, j'ai deux entreprises qui fonctionnent bien aujourd'hui, qui me permettent d'avoir pu financer effectivement la création de cette troisième entreprise et absorber une première année qui n'est pas bonne quand vous faites des gros. Le problème du particulier, c'est que vous faites le gros investissement au début, vous achetez un bâtiment, un terrain, vous fabriquer, vous achetez des machines très chères, la phytoépuration c'est pas gratuit. Puis comme je vous dis, vous ouvrez, vous faites 3 euros le premier jour. Donc, là, vous regardez vos échéances, vous dites bon, j'agis sur le marketing, voilà. Mais et on sait que les premières années, ça va être déficitaire. Mais bon, j'ai fait une étude de marché, j'ai fait étudier le bilan des concurrents. Le modèle est viable. Le modèle est viable, le faire-faire est de plus en plus dans la société, les voitures, il y en a de plus en plus, et donc c'est un modèle qui est économiquement viable, d'accord ? Donc alors on fait du nettoyage extérieur, donc ça c'est un premier marché, hein, qui est le marché des stations-service aujourd'hui, mais avec une machine qui va complètement obsolétiser ce qui existe aujourd'hui. En Allemagne, il y a 70% de stations qui sont équipées comme moi, en France c'est 3%.
Ah oui,
Je suis un peu précurseur, donc c'est bien, sauf que les gens... Ils ne connaissent pas aujourd'hui, donc un problème de communication aussi. On fait des nettoyages intérieurs et extérieurs, et comme on en fait beaucoup chez les concessionnaires, on a une qualité que les autres, que ceux qui ne font que du particulier ne savent pas faire. Moi, ça ne me pose aucun problème de remettre à l'état neuf un véhicule, même s'il a 5, 6, 7 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, on fait des retouches peinture à des prix qui n'ont rien à voir avec ce que vous trouvez chez un carrossier, ou un concessionnaire. Parce qu'on est entre 70 et 125 euros la retouche peinture. Alors que quand vous l'emmenez chez un carrossier, lui, il va peindre tous les éléments. Il va vous immobiliser le véhicule 2 jours. Ça va vous coûter 400 euros. Donc, c'est tous des marchés qui seront intéressants pour nous, pour l'équilibre financier. Pour le client, parce qu'il va trouver un service complet, et qui, là, c'est le chef d'entreprise qui vous parle, hein, c'est comment on fait pour effectivement gagner suffisamment d'argent pour financer ce qui nous amuse.
On parle d'argent, combien ça coûte pour nettoyer la voiture, on va dire un nettoyage, en profondeur?
Donc là, moi j'ai étudié le marché, et j'ai fait le prix du marché plus 5%, 5-10%. Voilà. L'étude de marché montrait que les gens étaient prêts à mettre un peu plus cher pour l'écologie, un peu plus cher pour le social, 5% pour l'écologie, 5% pour le social. J'ai jamais su si c'était 10% la somme visée. Je me suis dit, le prix du marché c'est ça, il faut que je passe avec ça. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai un point mort qui est assez haut, pour répondre plus précisément à votre question. Un point mort, c'est-à-dire un point d'équilibre, dans l'entreprise qui est assez haut, qui se situe autour de 300 000 euros, mais mes deux principaux concurrents font chacun 1 million, 1,5 million. C'est une question de temps. Il faut tenir ce temps-là. Voilà.
Et alors, combien ça coûte pour en nettoyer une voiture?
Pardon, excusez-moi.
je ne lâche rien. Vous
avez bien raison. Un nettoyage extérieur de voiture, c'est entre 8 et 12 euros.
Ouais.
Oui, 16 euros. Enfin, ça dépend si vous prenez la carte de fidélité ou pas. Donc, c'est à peu près le prix du marché. Et en nettoyage intérieur, c'est entre 30 euros, 59 euros, 89 euros et 175 euros pour la formule remise à neuf, 3 heures de nettoyage.
Ah oui, 3 heures, d'accord.
Et c'est en fonction du temps passé. Okay. Parce que dans une voiture, vous nettoyez toujours l'extérieur, l'intérieur, en passant l'aspirateur, en nettoyant les vitres, en faisant le plastique. Ça sert à rien de mettre des artifices d'écriture pour vous faire payer plus cher. Je trouve ça pas très honnête. Oui. Donc nous, c'est comme à la maison, quand vous nettoyez votre appartement, vous passez une demi-heure ou trois heures, c'est pas le même ménage que vous faites. Mm-hmm. Il reste plus ou moins de choses dans les coins.
Bien sûr.
D'accord. Une voiture, c'est pareil. Nous, on a le savoir-faire professionnel pour le faire. Et donc, c'est en fonction du temps qu'on va y passer qu'on va pouvoir enlever toutes les petites brindilles, tous les poils de chien. Donc, le client vient avec son budget. Nous, on lui dit, s'il vous plaît, on voudrait voir votre voiture. Nous, on pense que pour nettoyer bien cette voiture, il nous faut une heure et demie. Mm-hmm. Et le client choisit.
D'accord.
Soit il nous fait confiance, soit il dit, mon budget, c'est
soit
ça.
Soit il fait les coins, soit il fait pas les coins.
On en fait pour une demi-heure, pour une heure, des fois, enfin voilà. Bon. Voilà, un peu la démarche pour être aussi cohérent. La notion de facturation au temps passé est des nouvelles dans ce métier. Oui.
Et la clientèle est plus masculine ou féminine ?
Pareil.
Ah oui ?
Oui, j'étais surpris. Je pensais que, ouais, on va dire 55-45, mais il n'y a pas de... Alors, les hommes aiment bien nettoyer les voitures aussi, donc peut-être c'est pour ça aussi, j'en sais rien.
Denis, vous pouvez nous rappeler l'adresse de votre site internet si on veut vous trouver facilement.
Oui. Donc c'est www.cocounauto.fr.
Bravo Claude pour ce que vous faites. Ouais. Et vous êtes installé donc à Saint-Alban, dans la région de Toulouse. C'est vers le nord de Toulouse.
En face au géant Casino Fenouillet. Ouais. Voilà.
Merci à vous. Merci Denis de nous accompagner pour le goût d'entreprendre. N'hésitez pas à nous contacter entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.